Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro, c'est Rémi Hermoso à la mise en onde. Et on vous accompagne au cours des 28 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Être étourdi, hein, dans le premier sens là, du terme, être étourdi, sentir un vertige, sentir que les meubles bougent autour de nous, ben, ça peut arriver à peu près à tout le monde. Et ça peut être assez bénin, quoique ça peut aussi témoigner, ça peut être un symptôme d'une maladie, d'un mal plus grave. C'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant et savoir être bien informé. Tout à l'heure, l'infirmière Jocelyne Gadebois va nous éclairer un petit peu sur les étourdissements. Et puis, d'après la Société canadienne de pédiatrie, il n'y a pas de moment idéal, de moment préétabli par la science là, pour mettre fin à l'allaitement de son bébé. C'est un choix de la mère qui n'est pas toujours facile, qui est précédé d'un processus, d'une réflexion, hein, tout ça avec le contact avec son enfant, mais qui peut aussi parfois être mal reçu, mal accepté par le bébé. Et aussi, parfois, dans certains cas, ben, ce n'est pas un choix parce que la mère vit un épisode de maladie, un événement qui arrive et elle se voit devoir sevrer son bébé un petit peu plus rapidement qu'elle le pensait. Donc, aujourd'hui, Hélène Vien, elle qui est consultante en allaitement maternel, va nous éclairer les mamans, les papas aussi, dans ce processus du sevrage de l'allaitement. Hélène Vien, bonjour!
Bonjour!
Merci d'être là ce vendredi ensoleillé. Hélène, ce que l'on sait, et ça à peu près toutes les recherches, toutes les études le confirment, c'est que l'allaitement maternel, ça a beaucoup d'avantages. Autant pour la santé physique de l'enfant, son développement cognitif, le lien aussi entre l'attachement mère-enfant. Tout ça, ça a du bon. Ce que l'on sait aussi, et ça c'est important je pense de le spécifier ensemble dès le départ, c'est que c'est du cas par cas hein, pour le sevrage oui. De l'allaitement. Même si on sait qu'il y a plein d'avantages, après quand vient le temps de cesser l'allaitement, ben c'est vraiment individuel.
Oui, autant dans le moment où la mère va décider de sevrer ou qu'il y aura un événement qui fera que l'enfant va être sevré. C'est vraiment du cas par cas. Et il y a des mamans qui vont avoir déjà décidé durant leur grossesse ou avant, bien, je vais allaiter tant de mois, tant de semaines, puis après je cesse. Et c'est ça qui va diriger leur choix. Ces mamans-là, c'est habituellement assez facile dans le sens qu'elles sont déjà préparées à ce mouvement-là et à cet événement-là. Des fois, elles vont pas tout à fait se mettre des limites dans le temps, mais ils vont être assez confortables avec la décision, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ben non, mais j'imagine que ça peut être parfois être un risque de se dire, OK, moi, je vais allaiter 6 mois. Mais là, il arrive un événement positif ou négatif, puis on décide d'allaiter moins longtemps ou plus longtemps. Ça oui. peut un petit peu brouiller les cartes, ça.
Bien, l'important, c'est que la mère soit toujours confortable avec sa décision. Mm-hmm. Avec l'évolution dans son choix. Puis c'est très... l'allaitement, c'est une relation avec le bébé, avec la famille. Fait que c'est tous des facteurs qui peuvent jouer dans la décision de sevrer, soit au moment qui était déjà décidé depuis quelque temps ou un événement qui va précipiter la décision.
Hélène, quelles sont les raisons de sevrer son bébé?
Les vraies raisons qui sont incontournables, ça va être s'il y a de la médication qui est incompatible avec l'allaitement, des maladies, des traitements qui sont incompatibles aussi.
On peut penser à de la chimiothérapie, par exemple.
Exactement.
On peut parler en termes de médication. J'imagine s'il y a un postpartum, quelque chose comme ça, des antidépresseurs.
De moins en moins, les antidépresseurs. Okay. Les antidépresseurs, ça va être plus s'il y a une combinaison de médicaments
okay. Qui
va faire que ça peut devenir plus à risque. Mais les dosages, et maintenant, il y a beaucoup de mamans qui sont sous antidépresseurs ou médications semblables puis qui vont pouvoir continuer d'allaiter. Mm-hmm. Beaucoup avec une surveillance au niveau de la prise de poids du bébé.
Ah, ben oui.
Parce que ça pourrait avoir des conséquences à ce niveau-là. Parce que si le bébé est plus endormi, le bébé réagit moins, ça pourrait avoir une influence à ce niveau-là. Sinon, s'il y a des traitements, des tests diagnostiques des fois, avec de la radioactivité, mais c'est des choses qui sont plus exceptionnelles. Ce qui va faire que des mères vont décider d'allaiter, mais qui ne sont pas des vraies raisons, ça va être la dentition du bébé. Ils se disent quand il va avoir une dent. C'est certain qu'il y a des bébés qui vont apprendre à ne pas mordre, mais il arrive parfois que la réaction de la mère est tellement importante lors d'une morsure, lors d'une tétée, que le sevrage se fait instantanément. Le bébé ne veut plus jamais remuer au sein.
J'ai une amie même qui me racontait, il y a de ça plusieurs années, qu'elle a elle-même éclatée en sanglots. Ça lui a tellement fait mal.
C'est ça.
Puis, bon, c'est une blessure qui est physique, mais émotive aussi. Notre bébé que l'on nourrit depuis X mois nous mord. Et puis, elle a arrêté, elle, vraiment d'un coup, là, à ce moment-là.
C'est ça. Fait que ça vient pas d'une décision éclairée qu'elle a prise et qui a progressé dans le temps. C'est plus une décision drastique et parfois, ces mères-là peuvent sentir de la culpabilité ou différentes émotions là, en lien avec ça quand ça n'a pas été mûri comme décision.
J'imagine aussi que parfois, il y a le regard ou la pression des proches, du papa, de l'ami, la sœur, la mère, qui dit « bon, là, ça suffit ».
Beaucoup. Il y a beaucoup de mamans qui vont se laisser influencer par ça et ça, ce n'est pas une décision qui va faciliter le sevrage. Et une décision qui va faire que la mère va être bien là-dedans par la suite. Et c'est des moments, quand c'est dans la famille ou dans l'environnement proche, qu'ils ne sont pas en accord avec ça, ça serait important que la mère la consulte. Soit un professionnel de la santé, soit des gens qui sont habitués avec l'allaitement ou même une consultante en allaitement, pour essayer d'éclairer, de préciser sa décision à elle, son choix. Il faut qu'elle ait confiance dans sa décision quand elle décide de sevrer puis que c'est relié à des influences comme ça externes.
Il y a parfois aussi un retour précoce au travail?
Oui, parce qu'on parle de très précoce quand c'est, par exemple, une coiffeuse qui a sa propre clientèle puis qui, au bout de 2 semaines, avait retourné travailler. Mais on n'est pas obligé d'y aller avec un sevrage complet. On peut garder certains boires. L'horaire peut être agencé de façon à ce que ce soit compatible avec l'allaitement. On peut peut-être sauter un boire ou deux par jour. Et la maman peut faire longtemps comme ça.
Oui. Donc, différentes façons de faire.
C'est ça, oui.
Est-ce qu'il peut y avoir des signaux que notre enfant nous donne et avec lesquels on peut se dire, OK, je pense qu'il en a assez. Je pense que c'est terminé, l'allaitement.
Les signaux viendraient à peu près à l'âge de 3 ans.
Oh oui, quand même, c'est tard, ça.
Oui, parce que l'allaitement, les anthropologues, ils nous disent qu'un allaitement sevré naturellement, ce serait entre 4 et 7 ans. Mais dans nos sociétés culturelles qu'on a dans le moment, ce n'est pas le fait à cause justement du travail, des obligations sociales, etc. Avant ça, c'est des occasions particulières, des événements particuliers qui vont faire plus que l'enfant va sevrer. Ce qui arrive, des fois, il y a des bébés qui vont faire la grève de la tétée, la grève... ils voient plus parce qu'ils sont en train de développer autre chose.
Ah oui.
Ils découvrent d'autres choses, ils s'amusent à autre chose, ils sont occupés. Fait qu'ils n'ont pas le temps de téter. Ces enfants-là, des fois, ils vont donner l'impression que sont prêts à sevrer. Mais la mère qui veut continuer d'allaiter, elle pourrait exprimer son lait et le bébé reviendrait à continuer de lui offrir le sein. Le bébé va revenir et va téter, va reprendre le sein. Fait que la mère qui est prête à faire un sevrage, bien, peut-être que pour elle, c'est une occasion qui est bien placée pour diminuer la mise au sein puis ne pas reprendre.
Hélène, les experts semblent s'entendre, l'allaitement, le sevrage de l'allaitement devrait se faire plus de façon graduelle.
Oui. Sevrage qui est un bébé en bas de 6 mois, là, ça peut prendre 2 à 4 semaines là, pour faire un sevrage graduel. C'est toujours mieux parce que pour l'enfant, pour la mère aussi, parce que la mère, elle pourrait se ramasser avec une congestion, risque de mastite. Fait que c'est des problématiques que personne ne souhaite. Si le bébé, lui, ça peut être plus traumatisant au niveau psychologique parce que l'allaitement n'est pas juste une nourriture physique. Oui. C'est aussi le contact. Et les mères qui pensent qu'ils vont gagner du temps à sevrer un bébé, des fois, sont très surprises parce qu'ils se rendent compte que le bébé a très besoin d'un... C'est important d'avoir
d'être
le contact,
d'être avec maman. Collé.
Ouais. Fait qu'elles ne gagnent pas nécessairement du temps.
Oui, c'est du temps qu'elles perdent d'ailleurs à cajoler l'enfant puis à continuer à assurer le lien maternel.
C'est ça.
Oui.
Mais quand on veut qu'un sevrage se fasse de façon graduelle, la mère, il faut qu'elle investisse le temps qu'elle ne donne plus en tétée. Elle va l'investir en autre chose, masser le bébé, le caresser. Parce qu'elle ne pourra pas nécessairement s'asseoir dans le fauteuil où elle s'assoit d'habitude pour l'allaiter parce que l'enfant va avoir le réflexe de vouloir téter. La même chose au lit. Ou... Fait que c'est vraiment une période où ça a été développé avant. Qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant pour lui changer les idées, pour lui offrir une autre activité qui va répondre à son besoin affectif? Puis,
Et bien sûr, ça, c'est quand on a le luxe de se préparer graduellement, parce que parfois, ça arrive d'un coup. On le disait tout à l'heure, des situations de maladie ou d'autres événements plus fâcheux. Et là, ça doit se faire d'un coup. Ça a des impacts sur l'enfant.
Oui, parce qu'il peut être privé d'une quantité de soins affectifs reliés à l'allaitement. L'enfant développe une grande confiance en lui avec l'allaitement, dans sa relation avec la mère, même qu'il y en a qui pensent qu'il ne sera pas capable de développer de l'indépendance, mais au contraire, plus il va développer de la confiance, plus il va être capable d'avoir une capacité d'indépendance. Et l'allaitement, c'est ce lien-là, quand il est un petit peu plus vieux, où... dès qu'il y a une petite frustration, une inquiétude, il revient à maman, une petite tétée, on repart, c'est réglé. Fait que ça, il faut que ça soit remplacé par autre chose.
Et j'imagine que c'est le même chemin que l'on doit emprunter si on veut sevrer notre enfant et que ça se passe pas de façon tout à fait adéquate. L'enfant refuse de quitter le sein, nous, on serait prête là, en tant que maman. On peut peut-être remplacer les tétés par d'autres contacts?
Oui, justement, ça peut être selon l'âge de l'enfant, ça peut être des exercices différents dans le sens d'aller faire une promenade, lui faire découvrir un nouveau coin, lui alimenter au niveau de nouvelles stimulations.
Des nouveaux apprentissages,
et ça peut être aussi avec le papa, avec ouvrir sur autre chose. C'est certain qu'un enfant qui est un premier de famille est plus dépendant de sa mère que s'il y a deux, trois autres enfants qui jouent dans le salon en même temps que lui est habitué de téter, mais là, il va peut-être se rallier là, avec les autres enfants, puis ça va le distraire plus facilement. Mais c'est vraiment une période où il faut s'occuper beaucoup de l'enfant, justement pour qu'il garde ce sentiment de confiance-là.
Mm-hmm.
Mais il y a des périodes où c'est vraiment difficile pour des mères. L'enfant ne veut pas. Il y a des trucs comme éloigner les tétés, mettre les tétés plus courtes. Quand l'enfant est plus vieux, on peut faire même une espèce de contrat ou d'entente avec lui. Si tu attends pour ta tétée à tel
moment de la journée,
tel moment, on va faire telle activité entre-temps, mais il ne faut pas oublier de lui donner cet été quand elle a été promise.
Oui.
Mais c'est tout des... Puis la mère connaît son enfant et la mère, elle peut avoir l'intuition de développer des activités ou des choses particulières avec son enfant pour lui permettre ça.
Parfois, et là, dans le cas de figure où l'enfant est plus âgé, il peut y avoir une certaine forme de manipulation. Nous, on souhaite sevrer notre enfant, mais bon, on espace les tétés, par exemple, mais l'enfant demande le sein plus souvent. Comment on peut interagir avec notre enfant quand on sent qu'il y a de la manipulation émotive?
Mais l'enfant qui va le demander plus souvent, justement, c'est pour aller tester. Puis confirmer la confiance qu'il a en sa mère, puis...
On parlait de manipulation, Hélène.
Mais il faut peut-être évaluer d'abord, est-ce que l'enfant vit autre chose pendant ce temps-là, pendant cette période-là où la maman veut faire le sevrage? Mm-hmm. Est-ce que lui vit un stress? Est-ce qu'il y a un autre stress dans la famille? Ou est-ce qu'il y a un autre événement qui fait...
Changement de garderie, par exemple.
Oui, ça peut être toutes des choses comme ça qui vont faire que l'enfant a besoin d'être plus rassuré. Le moment peut se poser la question, bien, est-ce que je devrais reporter un petit peu plus tard, lui laisser le temps? Est-ce que lui... Parce que le sevrage, pour l'enfant, c'est un apprentissage autant que la marche, la parole, d'être propre. Fait que si l'enfant n'est pas prêt, c'est difficile de le faire avancer là-dedans. Il va avancer à son rythme. Fait qu'on peut essayer de lui tendre des perches. Puis
et de le préparer aussi en lui annonçant les choses.
Parce que l'enfant, quand il est un peu plus vieux, c'est impressionnant ce qu'on peut lui dire puis ce qu'il peut comprendre.
Oui. J'imagine aussi que c'est une période idéale pour faire un petit peu plus de place au papa.
Oui, ça serait... Si c'est un papa qui est déjà impliqué, il va le faire quasi automatique.
Oui.
Parce qu'il va sentir que la maman a le besoin justement de ses énergies pour passer à travers cette étape-là qui fait partie de l'étape naturelle de l'allaitement.
Oui, oui.
Puis ça peut être le papa, si le papa n'est pas disponible parce qu'il est au travail, ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie, ça peut être, mais autant que possible, quelqu'un qui était d'accord avec le fait d'allaiter.
Oui. Pour, et d'arrêter aussi.
Et d'arrêter pour qu'elle apporte le support que la mère a besoin. Ça prend quelqu'un qui la connaît vraiment et qui l'accompagne dans sa démarche.
Oui. Si l'on arrête d'allaiter pour X raisons, est-ce qu'on peut reprendre l'allaitement?
Si c'est une maman qui a eu besoin de médication pour stimuler la montée laiteuse, qui a eu la difficulté, qui a été obligée de donner des compléments à son bébé parce qu'elle n'avait pas de lait suffisamment, ça va être très difficile,
mm-hmm.
voire même impossible, dépendamment de la période, là, du temps où il y a eu un arrêt. Mais il y a des mamans qui, plusieurs semaines, plusieurs mois après, vont avoir encore un écoulement sans avoir une montée laiteuse, mais... Avec une stimulation en complémentant le bébé, ça pourrait se refaire. Mais d'où l'importance que la décision de la mère soit vraiment éclairée,
oui.
qu'elle soit certaine de son choix. Et des fois, je dirais même que des mères ont besoin de se rappeler dans quelles conditions elles étaient quand elles ont décidé de sevrer.
Ah oui!
Parce mm-hmm. qu'après que le sevrage est fait, puis que là, on reprend notre routine, puis que ça va bien, il y a des mères qui peuvent se dire, bien, j'aurais pu continuer, c'était pas si pire que ça. Mais quand on a pris la décision, si on avait pris une décision éclairée, on ne devrait pas remettre en doute.
Est-ce que le contexte de l'accouchement peut être un facteur décisionnel? C'est-à-dire si l'accouchement a été difficile, si le bébé a dû être hospitalisé quelques jours, voire quelques semaines, est-ce que c'est logique de se dire, OK, je vais l'allaiter plus longtemps?
C'est certain que les effets physiques, physiologiques de l'allaitement sont cumulatifs, dans le sens que plus un allaitement dure longtemps, mieux c'est, plus la part au niveau du bébé. Mais ça dépend toujours de c'était quoi la complication, mm-hmm. c'était quoi...
C'est pas un véritable guide, finalement. En tout cas, pas dans vraiment. Tous les cas.
C'est plus complexe. Ça fait partie d'un élément. C'est certain que si c'est un bébé qui a eu, au niveau nutritionnel, qui avait une problématique... Bien,
des là, carences.
Oui, ouais, ouais. L'allaitement est encore plus important parce que ça l'amène tout ce que le bébé a besoin. Mais tout dépendamment là, de la...
Mm-hmm,
mais
mm-hmm.
c'est certain que l'allaitement, pour n'importe quel bébé prématuré ou bébé qui a eu une problématique, est supérieur là, mm-hmm. au niveau des avantages.
En terminant, Hélène vient... Tout à l'heure, vous avez dit le mot, je pense, qui est associé à la maternité, du moins quand j'écoute les femmes autour de moi qui sont vraiment culpabilité. On fait comment? En fait, c'est un truc, hein? Vous avez les vôtres et d'autres experts auront d'autres conseils, mais pour faire taire un peu cette culpabilité-là, du moins liée au sevrage de l'allaitement.
Moi, je pense que c'est l'écoute de la maman, puis d'y aller avec ce qu'elle vit, elle, ses choix, puis l'aider à cheminer là-dedans, faire la part entre ce qu'elle a vu vraiment, elle et son bébé, parce qu'elle est très proche de son bébé et elle veut le mieux pour son bébé. Mais c'est vraiment de l'écoute, puis cheminer là-dedans, puis la supporter dans son choix quand il est établi.
Hélène Vient, je rappelle, vous êtes consultante en allaitement maternel. On laisse le site de l'Association québécoise des consultantes en lactation diplômée de l'IBLCE, www.ibc.ca. IBCLC.QC.CA, ça veut dire quoi ces lettres-là?
AQC, c'est l'Association québécoise des consultantes. IBCLC, c'est en anglais, mais c'est International Board Consultant Lactation Certifié.
OK, donc c'est vraiment une certification pour les consultantes en lactation.
Oui, internationale.
Et ça assure une expertise pour les mamans et les familles?
Oui.
Bon, alors on glissera le lien sur notre site. Merci beaucoup, Hélène Vient.
Ça fait plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
que je vais le baisser un petit peu.
Vous pouvez le baisser, on vous a entendu, Jocelyne. C'est un plaisir de vous retrouver, Jocelyne Gadebois. Et en plus, vous amenez le soleil en studio. Vous êtes de jaune et orange vêtu.
Mais oui, un vêtement d'été idéal pour passer chaleur.
Et pour terminer la semaine en beauté. On parle aujourd'hui étourdissement.
Oui.
Et je trouvais ça important d'en parler d'entrée de jeu parce qu'on se mélange souvent entre... J'ai eu un vertige, je suis étourdie, une perte d'équilibre. Tout ça, on met ça un peu dans le même sac.
Absolument. Et c'est dans le même sac aussi.
Bon.
Tout à fait. Un dépend de l'autre et un est dans l'autre. Alors, voilà. Les vertiges et les étourdissements, ce sont différents degrés entre les deux. On va appeler un vertige simplement quand on dit « j'ai la tête qui tourne » ou « les corridors bougent », quelque chose du genre. On va appeler un vertige quand on a une sensation que le corps sort du corps.
Ah,
c'est
oui.
un degré plus grand.
Mm-hmm.
On a une sensation de déséquilibre plus intense aussi à ce moment-là.
Mm-hmm.
La tête tourne, effectivement, mais on a comme l'impression que... On avance sans qu'on avance, quelque chose comme ça.
Oui.
Alors, c'est un degré plus accentué.
Le déséquilibre.
Le vertige.
Le vertige, OK.
Le déséquilibre, c'est vraiment dans les deux. La perte d'équilibre peut se produire avec un étourdissement. Ça fait partie du processus, tout simplement. Alors, étourdissement, vertige, c'est un degré différent. Et le déséquilibre fait partie des deux, est un symptôme dans les deux.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on est étourdi?
Ça dépend. Il y a des quatre types d'étourdissement, quatre types de vertiges, qu'on peut dire. Alors, ces types-là sont les vertiges positionnels. On s'assoit, on est à genoux, on est par terre et on se lève vite. Alors, rapidement, on va avoir un étourdissement. C'est pas grave.
C'est la pression qui chute, ça?
Non, pas nécessairement. Okay. C'est juste un débalancement de notre liquide à l'intérieur de notre vestibule, qui est une partie interne de l'oreille.
Ah, ben c'est intéressant.
Parce que
ça.
Le centre de l'équilibre, c'est dans l'oreille.
OK.
Et les systèmes nerveux qui font la lecture de ce liquide qui est dans le vestibule pour voir s'il est à niveau ou pas à niveau.
Mm-hmm.
Alors, c'est strictement à ce niveau-là que se gère l'équilibre.
OK.
OK. Donc,
On est à genoux, on est assis par terre, on se relève, on est étourdi, pas de souci.
Exactement. Il y a un autre type d'étourdissement et de vertige où c'est à l'intérieur du vestibule, c'est comme un petit colimaçon, je dirais, où il y a du liquide dedans. Il peut y avoir des petits dépôts de calcium. Plusieurs personnes, puis même en vieillissant, on développe ce genre de petites choses, de petits dépôts plutôt, et ça s'appelle les vertiges paroxystiques. C'est 30 % des gens qui ont des vertiges, qui ont ce genre de petits problèmes, qui se gèrent chez un ORL, un médecin spécialisé en ORL, ou par une kinésiologue ou une physiothérapeute qui va faire quelques manœuvres de posture pour rééquilibrer le tout.
OK.
Bon,
alors, ça se traite bien.
Ça se traite très bien. On a les vertiges violents qui peuvent durer 12 heures. Là, on n'est pas content, on n'est pas bien, on a des nausées, des vomissements, beaucoup d'étourdissements, même incapacité de se lever. Alors là, c'est sûr qu'on consulte, absolument. Ça devient même urgent. On a les vertiges récurrents, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir des vertiges, alors qui durent quelques heures, mais qui vont s'en aller tout seul.
Et qui veulent dire quoi?
Qui veulent dire que peut-être on a besoin d'une investigation.
Mm-hmm.
Et qu'on a peut-être un syndrome de Ménière. C'est un problème au niveau de l'oreille interne, effectivement, qu'il n'y a pas beaucoup de traitements, mais qu'il y a des stratégies d'adaptation. Et les personnes peuvent avoir de temps en temps quelques médicaments qui vont les aider. Mais un syndrome de Ménière, tu peux avoir un étourdissement par année ou tu peux en avoir à tous les jours.
Okay.
C'est
ça change le quotidien.
Exactement. Alors, ces vertiges qui sont récurrents, on ne les laisse pas sans consultation non plus.
Mm-hmm.
C'est pas nécessairement urgent.
Jocelyne, ça va m'arriver parfois d'être étourdie lorsque j'ai faim. Et je me dis, OK, là, il faut que je mange, là, c'est urgent.
C'est dû à l'hypoglycémie.
Ah!
C'est dû à la baisse de sucre dans le sang, tout simplement, qui donne une espèce de relâchement partout dans le corps, puis associé à une petite hypotension.
Okay.
Alors, dès qu'on mange le sucre, on stimule et ça revient.
Donc, ça pourrait être un traitement maison, par exemple.
Oui.
Si on se sent un petit peu mou, là.
Oui. Si ça fait 4 heures qu'on n'a pas mangé, ben ça serait bon de manger un petit peu. Les diabétiques en hypoglycémie, c'est un des premiers symptômes.
OK.
OK. Mm-hmm. Et la dernière catégorie, c'est l'instabilité, c'est la perte d'équilibre tout le temps. Alors, associé à certains problèmes neurologiques qui sont beaucoup plus graves et qui demandent des suivis médicaux. Mm-hmm. Voilà pour ce qui est des vertiges, des étourdissements.
Bon, un des facteurs de risque des étourdissements, c'est la chute. Et là, il y a un risque de se blesser.
Bien sûr. C'est pas vraiment comme un facteur de risque, c'est une conséquence,
ouais,
qu'on pourrait dire. Mm-hmm. Alors, la conséquence, c'est la chute dans tous les cas. Dans tous les cas où la tête nous tourne, on peut perdre l'équilibre et tomber. Alors, mm-hmm, ça devient plus important et plus grave chez la personne âgée. C'est évident. Une personne âgée qui chute, on s'inquiète, là. Il y a toujours un risque d'accident cérébrovasculaire.
On fait quoi si on se sent vaciller un petit peu? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour éviter la chute?
Si c'est léger, si c'est occasionnel, ben on s'assoit, on respire, on prend un verre d'eau. Puis ça revient. Si c'est dû à l'hypoglycémie, on mange un peu, et puis on s'assoit pour on attend. Et puis si c'est vraiment des symptômes plus graves, ou même qu'on peut avoir perte de vision, même vision trouble, même partielle, perte d'audition, on s'en va à l'urgence.
Oui.
On s'en va à l'urgence à ce moment-là.
Pas de niaisage avec ça.
Non. Non.
Il y a un pan de la population un petit peu plus à risque, là, vous disiez, personnes âgées, on surveille là, s'il y en a dans notre entourage.
Oui, tout le monde peut avoir un étourdissement, 1 sur 7, OK? Alors, on est tous un peu comme ça.
Oui.
Mais les personnes avec maladies chroniques à risque circulatoire et de tension artérielle sont à surveiller.
On porte attention. Jocelyne Gadebois, je le répète, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et puis, ben, ça sera une rencontre aux 2 semaines.
Oui.
Bon week-end à vous.
À vous aussi.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Christiane Campagnan à la recherche, Marianne Paquette au micro. On se retrouve, nous, lundi. D'ici là, portez-vous bien, un très, très beau week-end. Profitez du soleil et beaucoup de repos. Bye-bye.